dis pas putain, faut que je sois en couple pour aller mieux parce qu'en fait ça marche pas. Enfin, c'est pas ça qui va faire augmenter son niveau de bonheur.
C'est un sujet tabou, mais quand t'oses en parler avec tes potes et tout, tu te rends compte qu'il y a énormément de meufs dans le même cas.
Ouais. Faut pas se leurrer, la sexualité pour les garçons et la sexualité pour les filles, c'est pas du tout la même.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Melting Pot, donc fait par HEC Débat. Et aujourd'hui, je suis avec Augustine.
Bonjour à tous.
Anna.
Coucou.
Et Laura.
Hello.
Donc dans ce podcast, qui est le deuxième volet un peu du Q&A entre les filles et les garçons, aujourd'hui, donc je suis avec des filles qui vont répondre aux questions posées par des mecs. Donc j'ai transmis un lien en story où les mecs pouvaient mettre leurs questions de manière anonyme et on va y répondre toutes les quatre aujourd'hui. Et c'est Pauline pour le micro d'HDEB. Voilà, j'espère que vous allez aimer cet épisode. Donc première question, croyez-vous en l'amitié fille-garçon?
Gros sujet.
Ouais,
dont on a beaucoup
gros
parlé
tous les trois.
On n'était pas forcément d'accord d'ailleurs sur cette question.
Pas du tout, ouais. Personnellement, donc c'est Anna, moi j'y crois de fou. Par expérience personnelle, forcément. On s'était mis d'accord sur la théorie, la même que Mika, comme quoi il faut des bases saines. Par exemple, la meuf est en couple, le mec est en couple.
Ouais, genre si les circonstances
si
sont défavorables, enfin,
et qu'il n'y a vraiment aucune ambiguïté dès le départ. Franchement, je vois pas pourquoi il y aurait pas.
Et alors moi, je suis d'accord avec Anna sur ce point, et je rajouterais même que parfois, dans une amitié fille-garçon, il peut même y avoir des moments, des périodes où on se pose des questions sur la nature de la relation.
Oui.
Et pour moi, c'est pas contradictoire avec l'existence de l'amitié fille-garçon. C'est juste normal quand tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, tu rigoles beaucoup, tu t'entends bien avec, tu rentres dans l'intimité de la personne parce que tu la connais beaucoup. À un moment, bah, tu te dis bah, pourquoi pas, enfin, qu'est-ce qui empêcherait que... Mais cette phase,
justement,
une fois qu'elle est résolue et que tu sais que tu te dis ah ben non, c'est juste mon pote, ou alors qu'en discutant avec cette personne, tu te rends compte qu'effectivement c'est juste ton pote et que toi t'es ok avec ça et que vous êtes tous les deux ok, même si cette phase a existé, ça veut pas dire qu'elle n'existe pas, l'amitié fille-garçon. Pour moi, cette période peut faire partie du...
Une fois qu'elle disparaît, en tout cas,
ouais,
c'est
voilà.
Sûr que tu restes qu'avec de la basse scène d'une amitié.
Bah oui,
qui
mais
est top.
Le fait même de se poser la question montre bien que du coup, c'est pas exactement la même amitié que t'as entre
oui.
Deux filles et entre une fille et un mec. Et moi, ça m'énerve de penser que, enfin, je crois de moins en moins à l'amitié fille-garçon, et ça m'énerve d'être en contradiction avec vous là-dessus. Mais justement, pour moi, tout ce que tu viens de dire, Augustine, ça démontre le fait que l'amitié fille-garçon, c'est pas une amitié pure à 100%, où il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a pas d'attirance, il n'y a pas de drague, il n'y a rien. Parce que le simple fait de te poser la question montre bien que c'est pas la même relation que t'as.
C'est, ouais, pour moi, je suis d'accord. C'est, à la base, c'est pas la même relation, mais des fois, genre, t'as des relations avec des mecs, tu sais tout de suite que ça va être tes potes et rien de plus.
Ouais.
Enfin, tu sais, en mode.
Un peu peut-être
très
leur côté,
immédiat,
peut-être, tu vois aussi.
Pas forcément
c'est ça
leur
le problème,
côté.
C'est que
c'est
quand toi tu ressens ça, souvent de l'autre côté, c'est pas le cas. Et quand toi t'es sur quelqu'un, bah, lui il va penser que t'es sa pote, etc.
Non,
mais
c'est possible.
Tu vois, dans un groupe de potes, je pense qu'il y a aucun problème, mais dans une amitié
ouais.
En 1v1, c'est quand même compliqué parce que ça veut dire que tu t'entends bien avec la personne. Si elle est un minimum. Enfin, si la personne est un minimum. Mignon ou mignonne, bah t'as aucune raison de pas te poser la question.
Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, tu vois. Et pour moi, quand je disais une phase, c'est vraiment une phase dans le sens où t'as enclenché ton amitié, c'est-à-dire que l'amitié existe déjà et qu'il n'y a pas eu. Et l'amitié, pardon, existe déjà et il n'y a pas eu de. D'ambiguïté. Et à un moment, dans l'amitié, tu te poses la question parce qu'en étant ami, tu te rends compte que tu matches de ouf avec la personne. Mais je suis d'accord que si dès le début c'est ambigu. Enfin, sauf si c'est ambigu, que l'ambiguïté est résolue, après tu peux créer une amitié. Mais sinon, si l'ambiguïté ne se résout pas.
Après, si on part du fait directement que cette ambiguïté peut exister dès qu'on rencontre des nouvelles personnes et qu'on part de ce principe-là en construisant cette amitié et qu'on sait qu'elle va disparaître, ça peut devenir une nouvelle définition de l'amitié fille-garçon qui peut être un peu tchatcheuse, un peu marrante au début, voire ambiguë, et qui se transforme au fur et à mesure en quelque chose de plus stabilisé, calme. Et...
Ça, je suis d'accord. Je pense que la durée, c'est aussi un facteur très important dans le sens où si ça fait longtemps que... Y a... Enfin, même s'il y avait l'occasion et que ça ne s'est pas présenté que tu te mettes en couple avec ton pote, etc. Enfin, que même il y a quelque chose qui se produise avec ton pote. Genre, le fait qu'il y ait trop de temps qui soit écoulé, tu sais, tu te dis, mais en fait, on a passé trop de moments en tant que pote pour pouvoir imaginer qu'il se passe quelque chose par la suite, tu vois. Et ça, par exemple,
c'est bizarre, gênant, en fait, d'imaginer un truc
okay. Voilà. Et genre, tu peux avoir une ambiguïté au début. Moi, je pense que c'est sain de se poser la question, justement, est-ce que ça pourrait être plus qu'un pote? Comme ça, tu sais d'emblée dans quelle perspective tu es. Mais c'est sûr qu'avec le temps, bah, en fait, ça se confirme, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Et ouais, ça peut carrément être défavorable à une relation amoureuse ou...
Oui, mais donc ça veut dire que dès le départ, tu laisses la possibilité que ça aille dans un sens ou dans un autre. Donc ça veut dire qu'au départ, il y a quand même une ambiguïté, il y a de la drague, il y a...
Après, non, pour moi, t'as pas forcément ambiguïté, c'est pas forcément drague, c'est juste que dans ta tête, est-ce que tu vois cette... Ouais, c'est ça, est-ce que tu vois... Enfin, c'est pas forcément que c'est pas clair, des fois c'est clair très rapidement, mais c'est pas parce que tu te poses des questions que c'est pas clair, c'est juste en mode... Enfin... Je sais pas comment expliquer. Des fois, quand tu rencontres quelqu'un, bon, des fois c'est sûr et certain, mais des fois tu te dis putain, c'est fou, on match vraiment sur ces points-là, on pense pareil, on a plein de points en commun, et en plus il est super sympa, il est drôle, bon bref, t'as capté. Et tu te dis, mais attends, est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose ? En fait, non, parce que ça, parce que ça, parce que ça, et tu vois, c'est pas que c'est pas clair dans ta tête, c'est juste la question s'est posée à toi parce que voilà.
Et puis de toute façon, dès que tu fais une nouvelle rencontre avec le genre qui t'attire, etc., bah forcément tu vas te poser la question à un moment. Bah oui. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, c'est juste dans la nature de nos relations avec de couple, tu vois. Et ça veut dire que...
Non, c'est
là où je suis d'accord, c'est que oui, l'amitié que t'as avec un mec sera différente d'une amitié avec une fille, mais pour autant tu peux avoir des amitiés tout aussi fortes. Dans le temps,
oui, mais
c'est différent.
Mais pour moi, c'est pas le même type d'amitié, et du coup, je mets pas ça au même stage. Okay. J'appellerais pas ça de la même façon, tu vois.
Ok, c'est pour ça que amitié fille-garçon en tant que tel, c'est genre un débat. Mais même l'amitié fille-fille, il y a aussi des trucs à dire. Enfin, bon,
il y a des trucs à dire, mais.
C'est meilleur amitié
fille-fille. Amitié fille-garçon aussi.
Donc, pour rester sur les garçons, qu'est-ce qui vous attire le plus chez un mec ?
Oula !
Ah, c'est dur comme question.
En vrai, moi, qui me fasse rire et qui rigole à mes blagues qui sont pas drôles, donc ça... c'est dire beaucoup, déjà. Non, moi, c'est vraiment
l'humour,
ça.
L'humour, c'est tellement important.
Un humour, c'est important.
Et pas...
C'est fou, parce que oui.
Pas se faire chier, en fait. Non, mais c'est vrai, enfin... Non, mais vraiment, enfin, l'humour, le fait d'avoir une bête de lien avec la personne et de se sentir direct que ça match, la personne peut être magnifique et juste chiante à mourir. On se dira, bah, elle est mimes, mais non, je me fais déjà chier. Qu'est-ce que ce sera plus tard pour une relation sérieuse?
Après, tu vois, dans le terme... Pardon.
Vas-y.
Après, tu vois, dans la question, c'est qu'est-ce qui vous attire?
Ah.
Et... Non, mais je suis d'accord avec vous.
Ouais.
L'humour, ça attire de ouf.
Ouais, vraiment.
Mais...
Physiquement aussi.
Pour... Ouais, enfin, disons que... Enfin, moi, je sais que pour une relation, peut-être... Enfin, même carrément, c'est sûr... l'humour et même le fait qu'il y ait une connexion, qu'il y ait une confiance, qu'il y ait plein de compatibilité, tu vois, ça entre en jeu. Mais est-ce que c'est vraiment le facteur premier d'attirance en mode, bah voilà, par contre, humour, si. Enfin, en tout cas, moi je rejoins
l'humour, ça se voit de fou et ça fait partie du charme de la personne, forcément. Et on est tous
en fait, c'est ça,
différemment. Mais c'est vrai qu'il y a des caractéristiques physiques qui peuvent nous attirer. Mais c'est très très personnel, il y en a, ils préfèrent
les yeux,
le sourire. Moi je sais que j'adore le sourire.
Moi les yeux.
Non, en vrai, j'ai pas de caractéristiques physiques.
Ah si, moi la taille aussi.
Ah mais c'est ça, moi j'ai plein de potes. Ah non, s'il est plus petit que moi, c'est mort. Mais franchement, de toute façon, moi je suis petite, donc. Mais ouais, mais non, par contre, moi je trouve que ce qui est très attirant, c'est en fait l'harmonie d'un visage en mode. Tu vois, genre, je serais tentée par dire les yeux ou la forme du visage, les cheveux, etc. Je trouve que c'est un peu un tout, enfin, je sais pas comment dire. Mais...
Oui, je suis d'accord, t'as pas une caractéristique unique qui va faire que ton visage est harmonieux. Oh, c'est un tout, je suis d'accord.
Et un peu, en vrai, les mains, genre des traits.
Ça, moi, je comprends pas.
Je regarde jamais les mains,
je me dis,
tiens,
c'est ça qui
m'attire.
C'est ça, mais justement, c'est des mains trop sexy, vraiment.
Ils ont des ongles magnifiques, t'es là en mode, vas-y, mais j'ai pas ça, alors que vas-y,
t'es des profils. Mais en vrai, pour le coup, moi, enfin, ça va jamais être un point physique, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que...
Oui.
Il y a pas tellement de gens qui peuvent être attirants, et je trouve que ce qui rend la personne attirante... Enfin, en fait, beau et attirant, c'est deux choses différentes. Et pour moi, ce qui rend attirant, c'est quand même plus le moment que t'as avec la personne, même si c'est genre un truc pas sérieux ou quoi que ce soit. Mais juste, je sais pas, tu rigoles, tu te sens bien et tout. Et c'est ça qui fait toute l'attirance, selon moi.
Moi, je trouve que c'est vraiment le charme aussi, ça joue énormément.
Ouais, la façon dont tu parles, tes mimiques,
Humour, confiance en soi, charme, pour moi, c'est genre trois trucs qui vont assez bien ensemble. Tu vois, genre, en général, t'es charismatique quand t'es capable de second degré, de recul, donc d'humour, et que t'as assez confiance en toi pour le faire. Tu vois, enfin, c'est un peu des points que je trouve
C'est clair.
Et à contrario, le plus gros red flag, donc ça peut être dans les actes, enfin, en général, les red flags, c'est plutôt dans les actes d'ailleurs, même dans les paroles, enfin.
Moi, j'ai une théorie, c'est qu'un mec qui a été infidèle une fois sera toujours infidèle.
Mmh. Ouais,
et donc, pour moi, un mec qui a été infidèle, mais qui dit « Ouais, non, mais c'était pas un truc sérieux, etc. Ouais. » c'est mort. Genre, c'est vraiment le plus gros red flag.
Moi, je prends pas la seconde chance, donc j'ai pas trop cette théorie. Si ça arrive qu'une fois maintenant, si c'est 5 ex, il en a trompé 4 sur 5, bon, ça me vient.
C'est pas une très bonne chose.
Là, le cours de stats m'a appris que c'est vraiment
fou. C'est pas fou.
Mais maintenant, je trouve qu'au-delà des red flags communs et que tout le monde a un mode méchant, pas respectueux, etc.
Sale.
Ouais, voilà. en vrai, à part un giga, un mec archi conservateur, voilà, ça, impossible. Ouais,
conservateur mais... politique.
Ouais, enfin, politique, ouais, sur les traditions, sur la vie en
j'ai
général.
J'ai plein de têtes.
Bah, à part ça, je trouve que c'est dur d'avoir. Enfin, les trucs qui arrêtent toute relation avec la personne. Un truc en particulier, à part bien sûr les trucs communs donc, que j'ai déjà évoqués, j'en ai pas.
Ouais, c'est vrai qu'il y a des choses de dignité humaine de base
oui,
que forcément
tout le monde
a un gros stop et on a tous au moins plus ou moins un curseur par rapport à ça, mais c'est vrai que ce qu'a dit Augustine, l'irrespect, les choses comme ça, ça reste. C'est rédhibitoire.
Ouais. Après, moi je trouve qu'un mec possessif aussi, c'est un gros red flag.
Si c'est de la vraie. Si il est vraiment possessif, c'est pas juste pour rigoler, pour taquiner.
Ah bah oui, pour moi, un mec possessif, vraiment, ça t'empêche d'être toi-même, je trouve. Donc c'est un gros red flag avec la personne, puisque. Enfin, t'as besoin d'indépendance aussi, je trouve.
Oui, et aussi, ça va avec, mais étouffant dans ce que tu fais, tu sais toujours.
Tu dois toujours faire attention à ce que tu fais.
Regarder, c'est chiant.
C'est chiant, putain. Ouais, et moi pour ajouter un petit truc, je trouve que l'arrogance c'est vraiment genre un énorme red flag. Le fait qu'une personne ait déjà trompé, bien sûr, ça ne t'inspire pas confiance à premier abord, même pour. Enfin, tu sais, en mode même pour une amitié ou quoi que ce soit, genre s'il est capable de trahir une personne qu'il est censé apprécier, qu'est-ce qui l'empêcherait de trahir une autre personne, tu vois. Mais je trouve l'arrogance c'est vraiment un truc genre insupportable qui.
Justement, mec.
Ouais, et tu vois, c'est là le tandem en mode, la tension entre charisme avec la confiance en soi, l'humour et tout, et je fais trop la star, tu vois. Genre, ça vraiment,
C'est vrai que c'est un gros red flag.
Prochaine question, un peu longue celle-là, mais très intéressante. Lorsque vous avez un crush sur quelqu'un, est-ce que vous l'avouez à la personne ou est-ce que vous gardez le silence? Et si vous l'avouez, en fait, ouais, est-ce que vous l'avouez seulement si vous êtes certaine que c'est réciproque?
Je vais répondre pour moi parce que ça va aller très vite. Quand j'ai un crush, j'ai plus tendance à ne rien dire et attendre d'être sûre qu'il y a une porte ouverte pour agir. Ou alors, ça c'est peut-être un trait un peu qui montre un peu un manque de confiance en soi, d'être attirée par les gens qui m'aiment bien aussi. Donc de savoir qu'il y a moyen.
Moi j'ai l'impression que c'est l'inverse, genre chaque fois que j'aime bien quelqu'un.
Le fait que quelqu'un t'aime, ça le rend un peu plus attractif dans un sens.
Moi je trouve ça trop bien, au contraire je trouve ça hyper simple de penser comme ça parce que tu vas forcément vers des personnes qui vont pas te briser le cœur parce qu'ils sont attirés par toi.
Mais du coup c'est réducteur aussi.
On en parlera.
Je trouve ça aussi réducteur et ça veut dire que ça te ferme beaucoup de possibilités de personnes. Tu sais pas qu'elle t'aime bien, mais peut-être que si tu te mettais un peu à les travailler, tu vois, ça pourrait développer un truc après. Mais en même temps, c'est aussi.
Après, c'est dommage aussi de pas se lancer et de sauter à pieds joints dans un truc en te disant c'est moi qui l'ai choisi et je l'admire de fou, je l'adore et tout.
Du coup, tu te protèges un peu, non ?
On se protège de fou, ça reste.
Je peux comprendre le truc où tu dis il y a un manque de courage.
De courage, clairement. De prise de risque folle.
Mais tu vois, à l'inverse, je pense que Laura et moi.
Vas-y. Je pense qu'on est d'accord
avec moi, mais on a aussi, nous, la tendance inverse. Il peut y avoir une certaine réciprocité,
ça bloque.
Attends, c'est fou.
Non, peut-être pas on fuit, mais ça va instaurer une sorte de pression. Enfin, tu sais,
ça va changer.
Ok, là,
tu vas être rassuré. Tu vois, là où Anna va se dire, hop, t'es trop bien, je suis rassurée, je continue. C'est ça.
Après, moi je suis team. Il faut aller voir les mecs quand tu les aimes bien et tout. Faut oser, faut pas avoir peur.
T'as déjà fait le premier pas ou pas ?
Moi je pense que carrément, franchement. Hyper souvent, enfin je sais pas vous, mais pour le coup, quand un mec me plaît, j'ai aucune peur à aller le voir et aller. Après, certainement qu'il y a peut-être l'alcool qui joue, qui fait que
c'est pas
sévère,
mais
j'y vais, tu vois.
A win is a win.
Ouais, exactement.
Par rapport à la question en particulier qui demandaient si on en parlait. Moi je trouve que bon, on va pas leur dire salut t'es mon crush, on leur envoie un message, ouais, bien sûr. Mais je trouve que faire comprendre à la personne en bah, tu sais, des regards, tu parles.
Et toi du coup tu serais capable de faire le premier pas, Augustine, ou pas?
Oui.
Yeah.
Et tu le fais parfois ou pas?
Je crois, oui.
Est-ce que tu le fais sans?
Alors, non, souvent.
Mais tu le fais quand même, donc c'est déjà.
Mais oui, oui.
Et toi, Pauline?
En fait, je
Pauline
pense que
ne répondra pas à cette question.
Pauline ne répondra pas. Non, en vrai, je pense que ça dépend du mindset. Genre, je me considère comme une meuf assez entreprenante, même pour proposer de sortir, de faire des trucs, même d'embrasser, bien sûr. On sait qu'on s'entend, oui.
Mais très important.
Non, pour le coup, enfin sur ce point, je me considère pas comme hésitante, mais ça dépend du mindset. Genre là aujourd'hui, par exemple, je me sentirais pas forcément comme hyper entreprenante, ou enfin ça dépend des jours, des expériences passées,
de machin.
Oui, exactement.
Ouais, c'est aussi, la personne qui met grave à l'aise et qui est
ouais,
archi ouverte, même en tant que pote. Forcément, t'es plus encline
ouais.
à venir lui parler.
Oui, ça dépend vraiment ouais, exactement de la vibe que la personne t'inspire. Genre, des fois, t'as des gens, tu te dis, ok, lui, ça vaut la peine, vas-y, on va tenter un move, mais des fois, t'as des gens, t'es en mode, bah.
C'est ça, en fait, des fois, tu te fais le premier pas et tu te rends compte qu'au-delà du premier pas, tu dois carry tout le truc, tu vois, la discussion, relancer le truc à chaque fois et tout. Et ça, c'est vraiment chiant. Faire le premier pas et que ça mette l'autre en confiance et que ça déclenche quelque chose, c'est vraiment chouette. Et quand après, tu dois vraiment tout porter.
Et je trouve que c'est bien de se dire qu'une meuf peut faire un premier pas, tu vois, parce que parfois c'est un peu mal vu, parce que ça a toujours été le mec qui est censé faire le premier pas, etc., machin. Mmh. Je trouve que c'est cool que ça change un peu.
Après, ouais, je sais que, enfin, avec les discussions qu'on a eues avec nos potes, bah du coup, mecs...
D'élargie, par exemple.
D'élargie, par exemple. ils sont trop contents quand une meuf fait le premier pas.
Mais c'est ça, mais c'est ce qu'ils disaient aussi dans le dernier podcast, je l'ai pas streamé. Mika, Romain et Tom et Étienne aussi ont souligné que ouais, c'est bien qu'une meuf fasse le premier pas. Mais c'est vrai que là, on est quatre à dire que plus ou moins, on serait capable de le faire, etc. Mais j'ai des potes, vraiment, c'est mort. Mort de chez mort. Au contraire, enfin le mec doit faire tout le temps et je suis genre ça m'énerve, mais tu sais, j'ai envie de la secouer alors qu'elle fait ce qu'elle veut, tu vois, ma pote.
En fait, je pense qu'on a tellement d'opportunités, surtout à HEC, de se voir, de se croiser, de parler. Et aussi, plus on grandit, plus je pense qu'on est capable de savoir ce qu'on veut et de ce qu'on veut représenter aux yeux des autres. Et je pense que c'est plus on grandit, enfin en tout cas, moi je sais que je gagne confiance par rapport à ça, plus le temps passe. Donc je pense qu'à un moment, tout le monde en est capable, il faut juste aller à son rythme.
Alors, prochaine question. Donc, je sais pas si vous connaissez l'expression girl's girl, mais en gros, c'est un peu l'équivalent du bro code. Donc, en mode, si t'as ta pote, elle sort avec un mec, elle ne sort plus avec ce mec, est-ce qu'il serait possible qu'il se passe quelque chose avec ce mec? Donc, l'ex de ta pote.
Pour moi, c'est
est-ce que vous êtes une girl's girl?
Non. Vraiment, c'est pour moi, c'est impossible et c'est la pire chose
à faire.
Même si ça fait très longtemps, genre en mode ils sont sortis ensemble au lycée, genre un mois, tu vois, parce que là pour le coup on n'est pas sur une relation amoureuse qui est très lourde en sentiments, en signification aussi, enfin c'est plus simple. Et donc est-ce que des relations comme ça, un peu moins fusionnelles en termes émotionnels, vous serez capable de les avoir avec...
Moralement, il n'y a pas un aussi gros problème qu'avec une relation qui soit plus ou moins longue mais qui soit très importante.
Ouais.
Le problème c'est que je pense que toutes les trois on est d'accord que inconsciemment ou même consciemment on ferait pas ça en fait. En fait, à partir de ce moment où une très bonne pote ou même une amie ou même une pote est sortie vite fait ou en situationship avec quelqu'un, je pense que d'office, en tout cas pour moi,
c'est catégorisé,
je pense pour moi aussi, après, je pense qu'elle est catégorisée comme pas intouchable mais juste en mode on fait gaffe, il nous intéresse pas. Et
après, si c'était par exemple juste une shop ou un truc comme ça, tu vois, pas sérieux du tout, et que toi tu te dis putain avec cette personne là il peut y avoir vraiment un vrai truc, et dans ce cas là tu vas voir ta pote qui l'a chopé et tu lui en parles. Et en vrai, si toi tu dis mec, genre vraiment je sens le truc et tout, c'est l'homme de ma vie, etc., bah là je pense que tu comprends facilement. Mais après, pour les vraies relations, je pense que c'est comme pour le truc dont tu parlais, Laura, de l'amitié filiation, c'est directement dans ta tête, c'est non. Là tu, quand tu rencontres la personne, tu sais que c'est ton pote et que tu fermes toutes les portes à une possible ambiguïté.
Aussi mince soit-elle. En fait, moi je trouve que ça dépend vachement des attentions que t'as envers le mec en question, tu vois. Si c'est un mec qui te plaît un peu physiquement, bah c'est mort, enfin t'y touches pas et c'est
avec ta pote,
c'est l'ex-boy, voilà, il y en aura
pas
d'autres.
Pour le choper, tu chopes quelqu'un d'autre.
Voilà, exactement, mais par contre,
emballer ses
par contre, si c'est un mec où tu te dis putain, y a une vraie connexion, je ressens quelque chose de fou pour lui, bah forcément là ça se discute, mais il faut en discuter avant de passer à l'acte, sinon c'est dégueulasse.
Autre question, un peu romantique. Croyez-vous en l'âme sœur, en l'amour pour la vie? Est-ce que tu peux être amoureuse d'une même personne toute ta vie, ou est-ce que tu penses que l'âme sœur existe? C'est un peu deux questions en une, parce que c'est pas tout à fait la
même question. Moi, il y a deux questions.
Il y a deux questions. Déjà, l'âme sœur, est-ce que vous pensez que ça existe?
Non, moi, pas du tout.
Pas du tout non plus.
Putain,
on est trop d'accord, mais c'est fou.
Ah ouais,
enfin, moi, je me dis que déjà, si t'avais qu'une seule personne qui pourrait être son âme sœur sur la planète Terre, l'espoir est horrible, t'as tellement peu d'espoir de la rencontrer, que d'un point de vue probabiliste, tu tires une balle.
Elle ne sera jamais heureuse.
Ouais, voilà. Donc, pour moi, l'âme sœur, c'est vraiment du pipeau.
Plusieurs âmes sœurs du coup, parce que moi c'est ce que je me dis,
mais c'est certes il y a une attirance, une connexion, etc., mais c'est surtout tu te décides de te poser, donc c'est un choix que tu fais.
Oui, et ce choix là donc c'est pas tomber du ciel.
Exactement,
il y a plein de gens
et c'est pas évident, et tout est du travail, que la relation soit facile et charmante au début. Il y a du taf, c'est des choix tout le temps, donc forcément je pense qu'il n'y a rien de préécrit, de destiné. Il y a un peu dans le terme hamster de dire que c'est quelqu'un qui évoluera en même temps que toi, sur les mêmes chemins, alors que forcément il n'y a pas toutes les trajectoires qui sont parallèles.
Je suis totalement d'accord.
Donc à partir de ce moment là je pense que quelqu'un peut être ton hamster à un moment donné et ne plus l'être après.
D'accord, okay.
Parce que là c'est pas ton hamster.
Bah, âme sœur, ça dépend si c'est quelqu'un qui vraiment entre en résonance, comme t'as dit, avec toi à un moment donné, qui te ressemble, avec qui ça marche de fou, et comme une pièce de puzzle qui s'emboîte.
Moi, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il y a plein d'âmes sœurs, c'est-à-dire qu'il y a que les gens avec qui tu te mets et dont tu es amoureux, c'est forcément tes âmes sœurs. En fait, il y en a tellement que le concept n'a plus d'intérêt, par définition. Enfin,
il y en a quand même beaucoup, mais on est quand même genre des milliards, donc en vrai, c'est pas mal.
Oui, mais tu vas pas être avec quelqu'un à qui tu s'entends pas, donc en fait, ça sert à rien, l'âme sœur.
Mais c'est pas s'entendre, c'est un truc, tu vois.
Mais en fait, tu te mettrais avec. Mais tu vois, moi, je suis partisane de l'idée selon laquelle, justement, quand tu te mets avec quelqu'un en couple, tu considères que c'est son âme sœur. Quand tu es en couple avec quelqu'un pendant assez longtemps, que tu restes en couple pendant un an, plus d'un an, l'idéal c'est que tu sois capable de dire cette personne est mon âme sœur, tu te projettes toute ta vie. Oui. En fait, parce que les trois premiers mois on s'en fout, enfin c'est le début et tout, mais au bout d'un an, qu'est-ce que tu fais avec une personne si tu ne dis pas je reste avec elle?
Oui, c'est vrai. En fait, à partir du moment où tu imagines le fait que la relation va se finir un jour, elle est forcément condamnée.
Ouais, donc autant arrêter maintenant, c'est-à-dire, enfin,
ça fait pas tellement temps. Pas d'accord, genre.
Ah ouais.
Bah moi, ma première relation, enfin ma vraie relation en mode pas les petites amourettes machin, elle a duré 2 ans, mais en mode on en parlait mais très librement, mais on était là en mode bah c'est notre première relation, on va pas finir ensemble, tu vois. Mais en même temps, pour moi, ce mec, c'était mon âme sœur aussi, tu vois. Pour moi, tu peux être en couple pas très longtemps et c'est pas un problème, et je vois pas la notion d'engagement aussi prégnante que.
Mais comment tu peux rester avec une personne en te disant bah cette personne-là je sais que je vais la quitter après?
Mais c'est pas que je sais que je vais la quitter, c'est que non seulement vous évoluez ensemble et vous faites grandir ensemble, et du coup tu progresses de ouf. Les personnes avec qui je suis sortie m'ont apporté énormément, genre sur le plan personnel, sur ma manière de penser, je sais pas, genre par exemple j'ai tendance à me plaindre énormément. J'avais un copain qui se plaignait jamais, et tu vois, je me dis vas-y c'est cool, ça m'apprend vraiment plein. On n'est pas sur un guide de développement personnel, tu vois, mais pour moi genre ça ne peut, tant que la relation est saine, elle ne peut t'apporter que du bien, donc c'est pas parce que tu finis pas ta vie avec cette personne que tu ne vas pas y gagner ta part, tu vois. Et c'est un jeu à somme positive, tu vois, ça t'apporte aussi quelque chose à elle. Et en plus, genre, vous pouvez vivre plein d'expériences ensemble qui font que ça fait du sens, tu vois. Vous pouvez partir en voyage, vous pouvez emménager ensemble, tout soon, mais enfin, tu vois, t'es pas obligé de finir ta vie avec, peux quand même vivre une super expérience, une super relation.
Mais tu vois, quand je disais ça, moi, c'était vraiment dans le truc que tu imagines, enfin, tu te dis, oui, je peux me projeter, même si en fait, moi, j'ai toujours su, dans mes relations, j'ai toujours su que c'était faux, tu vois. Enfin, je savais que
ça que ça n'allait pas. Oui.
Mais j'y croyais. Mais je savais que c'était faux. Enfin, c'est particulier, mais.
Oui, mais en vrai, je pense que c'est normal à nos âges, tu vois.
En sachant que c'était faux, je me suis dit, en vrai, si ça arrivait, ça me gênerait pas. Et je trouve ça, c'est important.
Je pense qu'il y a une pente descendante à partir d'un moment qui peut être très légère, où tu te dis, en fait, cette personne, je finirai pas ma vie avec. Donc, forcément, j'ai l'impression un peu qu'on amorce la fin, mais ça reste très personnel. Quand moi je me pose ce genre de questions, déjà c'est qu'il y a des questions à poser,
mais c'est ça,
et du coup qu'il y a des trucs qui vont pas,
c'est que la relation n'a plus de sens, au-delà d'avoir le sens du futur, c'est qu'il n'y a plus de sens tout court, genre vous ne ressemblez plus,
et le jeu à somme positive là est surpassé par l'amas d'ondes négatives et de trucs négatifs qui prennent dans la relation, et je pense que c'est à partir de ce moment là où quand tu commences vraiment à te poser des questions que bon, là, tu vois la fin arriver et forcément, ben voilà quoi.
Est-ce que vous vous estimez plus heureuse en couple ou célibataire ?
Pour moi, c'est la même chose. Enfin, mon bonheur n'est pas fonction de mon état couple ou célibat. Enfin, je vais être... Il y a différentes choses qui me rendent heureuse parce que quand t'es en couple, tu vas faire moins de choses. Moins de choses que tu fais quand t'es célibataire, par exemple.
Ah, oui, okay.
Bah, forcément, le temps que tu passes avec ton mec, tu passes pas avec d'autres personnes, des choses comme ça. Mmh. Mais en fait, pour moi, la balance se fait assez bien et ça reste... C'est le même bonheur.
Ah, c'est beau.
Tout dans l'équilibre et...
Moi, je sais pas. Moi, j'ai toujours prôné le fait que être célibataire, c'était bien. Enfin, j'ai passé 21 ans de ma vie célibataire et je me suis très bien portée. Justement, ça te permet de... Enfin, tu dois des comptes à personne, t'es bien dans ta peau, tu fais ce que tu veux, quand tu veux. T'as du temps de libérer pour toi.
C'est vrai que ça prend du temps quand même, c'est très chronophage.
Mais après, je pense que ça, c'est hyper rationnel. Et quand c'est irrationnel et juste t'aimes bien quelqu'un, dans ce cas-là, faut juste foncer et y aller. Mais je pense que c'est important aussi d'être bien avec soi avant de se mettre en couple pour que ça soit sain.
Et du coup, tu réponds pas à la question qui est.
Mais
ça, je suis quand même extrêmement d'accord avec toi.
Ouais,
Mais je réponds pas à toi.
Ok.
Non, les deux sont bien en fait. Ouais. Ça dépend de ce que tu recherches et de la personne avec qui tu veux te poser aussi.
Mais carrément.
Mais pour moi, en tout cas, je suis vraiment d'accord avec Laura, c'est que si tu vas mal, tu dis pas putain, faut que je sois en couple pour aller mieux parce qu'en fait ça marche pas. Enfin, c'est pas ça qui va faire augmenter son niveau de bonheur. Il faut d'abord que ce soit bien avant de te rajouter ça.
Non, mais je suis complètement d'accord avec les filles, évidemment. Forcément, faut être archi bien avec soi-même dans sa vie, dans ce qu'on veut, ses ambitions et avec qui on veut les partager surtout. Après, je sais que quand je suis amoureuse, moi, je suis hyper heureuse. Et je pense que c'est un plus surtout, et ça donne en tout cas au début une petite couleur à la vie que moi j'aime beaucoup, mais après hyper bien tranquillement toute seule avec une petite vie, genre tout va bien.
Mais ouais, vraiment, je suis trop contente parce que moi, j'étais en fait, a priori, genre, j'étais d'accord avec toi, Laura, puis je me suis dit, mais moi, pas du tout. Enfin, j'étais là en mode, non, mais comment je vais amener ça? Mais merci, Anna, je suis totalement d'accord. Mais genre, je vois trop le truc en mode, tu sais, les filtres de couleurs de photos ultra contrastés, genre les filtres rétricains un peu trop saturés.
Exactement.
Bah, c'est un peu ça. Surtout, bah, forcément, au début, là, honeymoon phase, machin, il te fait des papillons dans le ventre, blablabla. Mm. Mais au-delà de ça, même sur le long terme, genre, tu peux être tellement à fond sur un truc et avoir une relation très passionnée, donc du coup, bah forcément, enfin, ça ne t'impacte que en plus.
En plus, exactement.
Après, et sûrement quand ça se termine.
Mais je pense qu'il faut avoir des bases archi solides.
C'est ça.
Et
des
fondations de ouf pour savoir que c'est pas cette relation qui définit et c'est pas ton état amoureuse qui devient quelque chose qui fait partie intégrante de la façon
de t'agir,
ta personnalité. Je pense que.
Et ça, c'est super dur. Enfin, vraiment.
Quand t'es très longtemps, quand t'as toujours été en couple ou pendant très très longtemps, sortir de cet état, c'est beaucoup plus dur qu'on le pense. Et je pense que c'est bien d'apprendre à se reconstruire et à se connaître en tant qu'adulte, femme, etc. après ces phases-là. Et de savoir qu'on n'est pas cassé en fait si on n'est pas en couple ou qu'on n'a pas un crush. Ou qu'on pêche au pain en soirée, des choses comme ça. Faut juste apprendre à être hyper bien avec soi-même, et ça, je pense que c'est du travail et du temps.
En fait, moi, ce qui me fait bizarre, c'est que j'ai du mal à être amoureuse généralement. En fait, là, à l'heure actuelle, donc en étant célibataire, je ne vois pas comment je pourrais plus heureuse que ce que je ne le suis actuellement. Et ça, quand tu
t'as dit, c'est trop mignon.
Ouais, merci, énergie. Et c'est pour ça que je me dis que, en fait, pour moi, ça peut juste être un bonheur équivalent. Parce que, ok, le couple va t'apporter énormément, mais aussi ça apporte peut-être aussi quelques prises de tête que t'as pas dans ta vie. Donc je pense qu'en fait, tout s'équilibre.
Avec ce que t'as dit, Anna, et ce que t'as dit, Pauline, en fait, je vous rejoins un peu. C'est vrai que quand t'es piqué ou que t'aimes bien quelqu'un, ça rajoute quelque chose en plus. Tu peux être très bien célibataire, mais ça rajoute un ta vie, une petite lumière. Donc je trouve que c'est un petit plus, mais il faut d'abord avoir des bases solides célibataire. Ouais.
Tout à fait.
Alors, quelle est la place des relations sexuelles dans la vie de couple ?
Moi, je peux essayer de répondre. Je pense que c'est très important. Dans le sens où, quand ça fonctionne, ça prend pas une place énorme parce que c'est pas
un problème.
C'est pas un problème. Et parce que tout le côté les dates, la relation, la parole, la tendresse, l'affection, etc. Je pense que ça, c'est la base, franchement. Mais quand ça dysfonctionne et que ça devient là un problème, ça prend des proportions terrifiantes et ça peut être source de non-retour pour un couple, en tout cas.
Ouais.
Donc si ça se passe mal,
si ça se passe mal sur le long terme et si il y a des blocages, que ce soit chez le garçon ou chez la fille, il y a vraiment un moment où je pense que il faut régler ces problèmes seul ou en parler vraiment beaucoup. La communication, c'est hyper important pour ce genre de sujet, surtout qu'on n'est pas tous au même niveau et pas tous à l'aise de la même façon.
Carrément.
Et je pense que si on n'est pas à l'équilibre et pas à l'aise pour en parler, pas à l'aise pour enfin voilà, je pense que ça devient un problème et là ça devient beaucoup plus important que tout le reste.
Ouais, je suis assez d'accord. Après pour moi, enfin oui, la place des relations sexuelles est assez importante parce qu'elle découle de trois choses. C'est communication, comme t'as dit, ouais, confiance, complicité.
De fou.
Et donc du coup la sexualité découle de ces trois éléments qui sont tellement
si
cruciaux.
Si y en a un qui va pas, ça se
voilà. Parce que faut savoir dire ce dont t'as envie, faut se sentir écouté et respecté par l'autre, et faut aussi avoir ce truc que tu n'expliques pas, une petite alchimie qui aide d'autant plus à ce que ça se passe bien.
Donc c'est communication, confiance et
complicité.
Complicité.
Et cette complicité, ce petit lien, tu vois, genre en général ça, tu l'as ou tu l'as. Enfin,
tu l'as ou tu l'as.
En vrai, tu l'as difficilement avec une personne pour qui c'était pas, inné, intuitif, tu vois.
Et sur ce point, en fait, je rejoins totalement et je trouve que la sexualité, c'est vraiment un peu un miroir de l'état du couple en général. Enfin, pour moi, par ta sexualité, tu peux voir en fait des choses qui vont pas dans le couple, tu vois.
Genre un manque d'écoute,
un égoïsme certain. Et puis de toute façon, pour tout le monde, hein, quand ça va pas dans ton couple, sexuellement, ça va pas non plus.
T'enlèves tous tes artifices, t'es vraiment toi, et donc t'es aussi, enfin t'es pas la pire version toi-même, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux montrer aussi justement des petits aspects de ta personnalité qui peuvent déplaire à l'autre, qui peuvent faire en sorte que le couple aille mal ou très bien justement.
Voilà, c'est ça, exactement. Je trouve qu'il y a vraiment un lien entre les deux et
qui évolue
de pair en positif comme en négatif.
Déjà, faut pas se mentir, il faut pas se leurrer, la sexualité pour les garçons et la sexualité pour les filles, c'est pas du tout la même.
Oui.
Il y en a qui sont très à l'aise avec ça, d'autres absolument moins. Et je pense qu'il y a énormément de tabous autour de la sexualité féminine et notamment des différentes façons de ressentir le plaisir à toutes les échelles. Et je pense que c'est très important d'apprendre à en parler.
Je suis totalement d'accord.
Surtout avec vos partenaires féminines parce que le plaisir, il n'est pas pareil chez tout le monde.
Oui.
Donc, et c'est très tabou et il y a plein de statistiques que les garçons vous n'entendez pas, vous n'écoutez pas, vous n'êtes juste pas du tout informés parce que c'est très tabou chez nous. Il y a plein de chiffres qui existent, il y a plein de livres qui ont été écrits notamment par des femmes et des sexologues, donc qui serait intéressant de regarder juste aussi pour level your game les garçons. Donc, voilà. Mais par exemple, typiquement, je crois que c'est plus d'un tiers des femmes qui ressentent rien par pénétration ou pas grand chose. J'espère que si on la garde, ce sera pas tombé dans l'oreille des sourds.
Non, mais oui, mais t'as trop heureusement, je suis tellement d'accord avec toi.
C'est bien que t'en parles.
Parce qu'en fait, je trouve que justement, en fait, il y a un peu un rituel du sexe dans le sens où on a l'impression qu'il faut faire ça, puis ça, puis ça.
Oui, bisous, préliminaires, on se déshabille. Enfin, non, on fait un vrai rituel. Ensuite, pénétration, ensuite le mec jouit, ensuite c'est fini, la meuf n'a pas joui, chacun dort.
Tu dors et tu te réveilles et ça recommence et... indéfiniment et c'est le même truc.
Oui.
Et en fait, ce qui est dû bien sûr en fait, à tout, à la culture, depuis des siècles, que ce soit dans les livres, à la télé, ça se passe généralement comme ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut pour le coup déconstruire parce que je pense qu'il y a vraiment des femmes à qui ça plaît pas ou plus. Et en fait, ce qu'il y a de dur, c'est que en fait, moi, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, dont je fais sûrement partie, qui, quand tu as envie de le dire, t'as pas envie d'être pour une folle, tu vois.
Ouais,
t'as du mal à en parler.
De ouf.
Parce que tu vas dire, putain, mais...
Je suis une zinzin.
Enfin, ça, j'aime pas, alors que c'est censé, tout le monde est censé aimer.
Ouais. Je suis trop d'accord.
Et de pas oser dire, parce que, tout se passe, simplement. Je voudrais prendre le courage de le dire.
De le dire, ouais. De toujours communication qui est claire. Et de savoir aussi identifier soi-même ce qui nous fait kiffer et être à l'écoute de son partenaire, parce que peut-être aussi les garçons, c'est pas leur kiff.
Ces stéréotypes et cette pression, elle existe pour les
deux garçons,
des deux côtés.
Pour rejoindre ce que tu avais dit, c'est le tabou sur la masturbation féminine. Ça, je trouve ça fou. Parce que les mecs, ils en parlent en cours, mais genre chill de fou. Ils sont là en mode bah je vais faire quoi, je vais me branler cet après-midi, pas de soucis. Alors que je vais me toucher, je vais faire ça, mais trop bizarre. Mais j'aime bien parler de sexualité avec mes potes parce que on se fait confiance et je trouve ça hyper intéressant et complexe comme sujet. Et quand j'en parle à certaines de mes potes meufs, mais genre elles ne se sont jamais touchées. Et j'ai rien contre ça, tu vois, elles vivent leur vie, y a pas de souci. Mais je me dis, mais est-ce que s'il y avait autant ce tabou sur la masturbation féminine, elles ne se seraient jamais touchées? Je ne pense pas, tu vois. Je connais des femmes, elles ne se sont pas touchées avant leur première fois, une seule fois, elles savaient même pas comment ça marche, mais t'es là en mode, mais c'est une dinguerie quand même.
Il y a des gens et des filles, jusqu'à très récemment, que je connais, qui ne savaient même pas où aller quoi.
Et voilà.
Et où trouver le clitoris, par exemple.
Oui. C'est fou.
Et je trouve ça incroyable que même à l'école, on l'apprenne pas.
On le banalise pas assez.
Ce que je trouve assez terrible, c'est que quand t'en parles, parce que du coup c'est un sujet tabou, mais quand t'oses en parler avec tes potes et tout, tu te rends compte qu'il y a énormément de meufs qui kiffent pas et qui ont pas une sexualité épanouie. Et je trouve ça fou parce que je suis sûre que, à l'inverse, un mec qui a pas une sexualité épanouie va faire en sorte qu'elle le devienne, tu vois. Enfin, je sais pas, il va oser.
Il a plus tenté,
etc. Alors qu'une fille se bride de fou.
Après, on se pose pas trop la question de la sexualité épanouie des mecs, donc je sais pas si c'est parce qu'elle est
constamment
épanouie.
Il y a un mot, mais c'est juste à vous.
Non, parce que
je pense pas. Des fois qu'ils sont trop bien et personne n'allait jusqu'au bout, juste c'était trop cool. Et il y a des fois où on allait jusqu'au bout et franchement,
c'était forcé.
Ou alors, on l'a fait vite fait, fallait forcer le trait, c'est bon, tout le monde l'a fait, c'est bon, on est content, on va dormir.
On va laisser poser. Alors, est-ce que vous envisagez vos choix de carrière en prenant en compte votre future, entre parenthèses, relation amoureuse et l'éventuelle vie de famille?
Non,
pas du tout. Moi, même pas en compte dans mes choix. Moi, j'ai déjà pensé pour me dire que c'est vraiment pas un critère et
je pense qu'on peut vraiment faire les deux.
Ouais.
Les papas, ils y arrivent.
Les deux sont.
Et les mamans.
Et les mamans,
s'il vous plaît.
Encore mieux, je trouve, qui ont souvent une charge mentale. Supérieure, souvent, pas tout le temps bien sûr, donc je pense que en vrai non.
Après tu vois, moi je me dis peut-être si j'ai des enfants, j'ai envie de les voir grandir et c'est vrai que ça me poserait problème de me dire que j'ai pas assez de temps à leur consacrer à cause de ma carrière professionnelle, tu vois. Mais peut-être, enfin, ça me briderait pas dans mes choix de carrière, dans les secteurs où j'ai envie d'aller, etc. Mais peut-être qu'à un moment, je vais vouloir...
plus déléguer et organiser ton temps.
Et peut-être, tu vois, me dire, c'est con, là, je viens d'y penser parce que j'avais pensé, mais peut-être la piste de l'entrepreneuriat où c'est toi qui mets tes propres horaires, etc. Ça pourrait me pousser plus à faire de l'entrepreneuriat pour me dire,
Oui, c'est un argument.
Tu vois, quand et puis, je peux choisir quand est-ce que je peux voir mes enfants et quand est-ce que je peux ne pas les voir.
En fait, là, je suis d'accord avec toi, c'est que je me suis jamais dit, je vais faire ça dans ma carrière pour être mère, mais en revanche, que je sais, enfin, j'insiste sur le mère, ce que je sais, c'est que j'ai envie de consacrer du temps à ma famille. Donc forcément dans les choix de carrière il y aura le truc horaire du je vais avoir du temps pour ma mif, pour mes potes, mais pas pour le rôle de mère en soi. Et donc je suis totalement d'accord avec
ça. Je serais un mec ou une meuf, ça serait le même raisonnement.
Mais même le raisonnement inverse, je sais qu'en ce moment il y a énormément de stress par rapport au fait d'avoir des enfants et de plus en plus les femmes n'en veulent pas, et je pense qu'il faut aussi accepter ce genre de choix de famille. Parce qu'il n'y a pas toutes les filles qui veulent des enfants pour l'instant, même peut-être jamais, et pour qui la question ne se pose absolument pas. En fait, c'est beaucoup trop tôt.
Moi,
déjà,
c'est pas un sujet.
Oui, déjà.
Oui, c'est sûr, c'est pas un sujet, mais enfin, moi, je suis sûre que je veux des enfants, tu vois. J'ai envie d'être mère.
Alors que moi, j'en sais rien. Je dis pas non, j'ai pas envie, juste.
Mais c'est trop cool aussi.
Qu'est-ce qui vous rend heureuse?
Waouh,
c'est folie.
Mes potes.
Vraiment. Les temps de qualité de fou.
Tellement de
choses. Avec des gens incroyables. Et voyager, je pense.
J'ai grave une philosophie des petits bonheurs, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui s'accumulent et qui font que t'es hyper heureux. Il y a pas une
journée qui est bonne pour un gros événement, c'est vraiment t'as passé une journée du matin au soir.
C'est ça, plein de petits moments qualitatifs, ce qui fait que t'as pas une recette particulière pour être heureuse, tu vois. C'est juste par moment il y a une accumulation de choses qui se passent trop bien et qui font que t'es un peu dans un sentiment de plénitude et t'es juste là. Mais elle est géniale, ma vie,
je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, le bonheur est dans les petites choses du quotidien, et en fait. Enfin, la preuve en est aussi, un peu empiriquement, c'est que en GEP on a fait des choses de dingue, mmh. on faisait que voyager et j'étais pas plus heureuse que ce que je me suis aujourd'hui, alors que ma vie est beaucoup plus moins intéressante, moins trépidante.
Mais ça c'est trop bizarre, tu vois, je me demande comment c'est possible de... C'est pas forcément ce que tu fais en fait, c'est vraiment avec qui tu le fais, exactement. La façon dont tu le vois, etc.
Et c'est fou, il y a des trucs ultra anecdotiques que tu peux faire avec des gens qui deviendront juste les meilleurs souvenirs alors qu'en fait vous avez mangé des pâtes, tu vois,
clairement.
Donc,
mais c'est fou, hein.
Et je pense que vraiment bien s'entourer et prendre... le côté léger des choses aussi, c'est très important aussi de se mettre dans un mindset qui est bon et sain pour soi-même. Forcément, tu seras beaucoup plus ouvert à tout, tous les aspects positifs des petits moments du quotidien aussi.
Mmh, totalement.
Et moi, je pense que c'est aussi le fait d'apprendre et de toujours être stimulé dans ce que tu fais. Que ce soit une chose nouvelle que tu apprends, je sais pas, un cours, une nouvelle activité, un sport, des gens que tu rencontres aussi, t'en apprends sur eux, t'apprends sur la manière dont les gens fonctionnent, avec une personne un peu atypique, enfin voilà. Je trouve que c'est quelque chose qui rend heureux sur le long terme parce que tu t'ennuies pas en fait.
Ouais, enfin, pour moi,
pour moi, l'ennui c'est un peu l'opposé du bonheur, il y a d'autres opposés, bien sûr, il y a d'autres antonymes, mais. Voilà, pour moi, le fait de constamment être genre interrogé, repoussé dans ses limites, toujours chercher à connaître un peu plus de choses, bah, c'est quelque chose qui te rend extrêmement
heureux. Après, moi, je suis un peu tributaire des autres dans mon bonheur, dans le sens où, en fait, souvent, ce qui me rend heureux, c'est des choses que je fais avec des gens.
Oui, enfin, c'est les moments partagés plus que moments individuels.
Vraiment, et ça, c'est un vrai trait de mon caractère. Et donc,
je pense qu'on peut trouver le bonheur aussi tout seul.
Dans les projets, moi,
les projets, dans le travail qu'on met aussi, c'est très important de se sentir capable de faire une tâche, même qu'on n'a pas envie de faire et de la réussir, ou de lire un livre qui nous tient vraiment à cœur et qui plairait pas forcément aux autres. Je pense que c'est important, mais c'est vrai que aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, surtout à HEC, enfin, c'est vraiment les autres, moi, qui m'apportent beaucoup plus que mon travail individuel. Quoi.
Je suis d'accord, mais dans le contexte HEC, tu vois, enfin, moi, justement, en prépa, je trouve que, enfin, après, j'étais pas la plus heureuse du monde, mais là où j'avais, enfin, je me sentais épanouie, c'était quand j'arrivais à bien bosser, etc. Enfin, je trouve que
avoir ses capacités
et avoir un projet aussi, je trouve que c'est hyper important parce que sinon, comme tu disais, Pauline, sans projet ou sans réflexion, sans stimulation intellectuel et tout, bah tu te fais chier quoi. Enfin,
ouais, je suis complètement d'accord.
Est-ce que les hommes de votre âge et de votre entourage auraient besoin d'un petit cours de féminisme?
Ouf, oui, en vrai, oui. Oui, pour les choses dont on parlait tout à l'heure, comme disait Anna, sur par exemple la sexualité, tu vois.
Ouais.
Enfin, est-ce que ça rentre dans le féminisme? Je pense que oui. Non.
Moi j'aurais tendance à dire non, mais pourquoi
ça dépend,
pas.
Ça dépend quelle définition on fait du féminisme.
Ouais, exactement.
Si on parle de l'égalité filles-garçons.
Et moi je pense que du féminisme, on dit c'est vu et revu, mais c'est parce que en fait on va.
On en parle trop mal.
Non, je suis pas d'accord. Je pense que c'est parce que juste nous on va s'entourer de mecs respectueux pas des gros machos. Mais en fait, il y en a. On va pas être avec des mecs qui te considèrent moins
dans ton entourage,
parce que t'es une femme. Mais maintenant, globalement, bien sûr que oui.
Mais je pense qu'on se gagnerait tous à se connaître un peu mieux dans les deux sens. Mais c'est vrai qu'il y a encore énormément, rien que dans les faits, des vraies différences entre les hommes et les femmes. Et les garçons, ils sont très en mode dans le sport, il n'y a pas d'égalité possible, etc. C'est peut-être logique d'un point de vue physique parce qu'on est fait différemment. Mais je pense que pour tout le reste, franchement, il faudrait tous faire des efforts pour que ça s'harmonise un peu mieux. Quoi.
Juste ce que je voulais dire. Par rapport à ça, c'était vraiment le truc du... Pour moi, le problème, tu vois, c'est pas si, genre, bah il y a plus de mecs dans le BTP parce qu'ils sont plus forts, c'est normal, tu vois, c'est pas sur ça qu'il faut lutter.
Oui, justement, ça, oui, voilà.
Et c'est pour ça que je disais le truc égo en droit, en mode, le problème, c'est pas ça. Oui, on est... Bah, on n'a pas les mêmes corps, c'est vrai. Donc forcément, tu vas avoir plus de mecs dans la construction. Et pour moi, ça sert à rien de s'attarder là-dessus, c'est vraiment pas le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est à capacité et poste égal, rémunération inégale. Le nerf de la guerre, c'est
considération inégale aussi.
Voilà. En fait,
dans certains domaines,
t'es moins crédible. T'es une femme, t'es moins crédible.
Ouais.
Et le fait, t'es une femme, t'es jolie. Ça, c'est peut-être bordel ce que je veux dire, mais
non, mais
femme,
si tu
t'es peux... jolie,
ouais.
T'es bien foutue.
T'es conne.
T'es encore moins crédible. On le prend directement pour une conne.
Ouais, 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 ouais.
Et ça, tu vois, c'est pesant, quoi. C'est chiant.
Je pense qu'il faut arrêter aussi vraiment tous les amalgames, en fait, sur les mecs, les filles en même temps. Avoir des réflexions généralisantes et même les conditionnements, même quand on est tout petit, là il y a plein de gens, ça commence à changer, etc. Mais je pense qu'il faut juste faire attention un peu à ce qu'on dit sans y penser, parce que déjà ça peut être plaisant, mais surtout ça fait des généralités qui sont pas vraies du tout, et qui, on est tous beaucoup plus profonds qu'être un homme ou une femme en fait, et je pense qu'il faut juste apprendre à s'écouter et à défaire les conditionnements dans lesquels on a été élevé. Pas tous, hein, parce qu'il y en a qui sont hyper importants, hyper beaux, mais en fait il faut juste apprendre à réfléchir et à pas raconter la première chose qui vient à l'esprit, surtout quand c'est irrespectueux.
C'est ça, ouais, la notion de respect, c'est vraiment un truc qui...
Ouais, c'est ça. On peut rigoler, il n'y a pas de problème, les blagues du monde noir, les blagues pas féministes ou quoi, enfin ça fait rire tout le monde, moi la première, je trouve ça hyper drôle, mais juste, je pense qu'il faut prendre vraiment ça avec des pincettes et intelligence, et savoir et revenir en fait sur ce qu'on a dit, et apprendre ouais, à réfléchir un peu quoi.
Bon bah en tout cas merci beaucoup les filles pour ce podcast, j'ai trop aimé enregistrer avec vous, c'était trop cool. Et n'hésitez pas à revenir quand vous voulez, et on espère aussi les auditeurs merci que vous avez aimé cet épisode, et à la semaine prochaine.
Merci
beaucoup.